Le ministre de l'économie du Brésil, Paulo Guedes, a reproché au gouvernement français ses critiques sur la déforestation en Amazonie. Il a menacé de l'envoyer se faire foutre et de se détourner du marché français. Le ministre de l'économie du Brésil, Paulo Guedes, a affirmé que la France était en train de devenir insignifiante, menaçant de se détourner du marché français si Paris ne cessait pas ses critiques sur la déforestation en Amazonie. Vous avez intérêt à bien nous traiter, sinon on va vous envoyer vous faire foutre, a-t-il lancé le 9 août à Brasilia lors d'un congrès de chefs d'entreprise du secteur de la restauration, dont des extraits filmés ont commencé à être diffusés dans la presse brésilienne le 10 août. Excusez-moi pour la franchise des mots qui ne sont finalement que les reflets d'une réalité encore plus amère. Paulo Guedes a ensuite eu recours à la comparaison, prenant l'exemple de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris en 2019. Un jour, un ministre français m'a dit « Vous êtes en train de brûler la forêt ». Je lui ai répondu « Et vous, vous avez brûlé Notre-Dame », a-t-il raconté sans préciser de quel ministre il parlait. Ce sont des accusations futiles. Vous n'avez pas brûlé Notre-Dame, mais vous n'avez pas réussi à empêcher le petit pâté de maison où se trouve la cathédrale de prendre feu. Chez nous, la forêt amazonienne est plus grande que l'Europe et vous nous critiquez, a-t-il ajouté. Et de poursuivre, après j'ai donné un autre exemple au ministre, nos échanges commerciaux avec vous, la France s'élevait à 2 milliards de dollars en 2000, autant que la Chine. Aujourd'hui, c'est 7 milliards avec vous et 120 milliards avec la Chine. Vous devenez insignifiant pour nous. Le Brésil exige que la France souffre au Mercosur. Dans son discours du 9 août, Paulo Guedes a critiqué le fait que le président français Emmanuel Macron soit opposé à la ratification de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, qui réunit Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay, doutant de l'engagement du Brésil à défendre l'environnement face à l'avancée. Dans son discours du 9 août, Paulo Guedes a critiqué le fait que le président français Emmanuel Macron soit opposé à la ratification de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, qui réunit Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay, doutant de l'engagement du Brésil à défendre l'environnement face à l'avancée de la déforestation et des incendies en Amazonie, où la France nous ouvre son marché à nous et au Mercosur, où elle deviendra insignifiante pour nous et on ira voir ailleurs, a-t-il insisté. En septembre 2019, Jair Bolsonaro et Emmanuel Macron ont eu de nombreuses passe-d'armes au sujet des feux de forêt en Amazonie. Le président brésilien accusant son homologue français de menacer la souveraineté du Brésil en critiquant sa politique environnementale. Paulo Guedes s'était à l'époque distingué en affirmant que Brigitte Macron était vraiment moche. Ministre de l'économie du Brésil, Paulo Guedes, la France est en train de devenir insignifiante. Il y a une corrélation inverse entre athéisme et rationalisme. Je m'explique. Et là, je cite un mystique. Plus on s'accroche au monde matériel, plus on s'éloigne de Dieu. Et donc, en s'éloignant de Dieu, sur ce tout, on devient irrationnel, car déconnecté de la réalité. En France, pas un jour ne se passe sans que des hectares de forêt ne partent en fumée. Malheureusement, les diplômés super intelligents de l'ENA n'ont pas encore compris comment fonctionne la Terre. Tous les éléments de la Terre, en tant que soldats de notre Créateur Tout-Puissant, se vengent tôt ou tard de ceux qui sèment le chaos en vendant, par exemple, des armes qui tuent des innocents, surtout des enfants. Et c'est encore pire, cela arrive souvent dans des pays pauvres qui souffrent déjà de la famine et de la sécheresse. À cause des politiques irrationnelles de leurs dirigeants qui ont vendu leurs âmes au diable sous couvert de l'islam même. Le président français Emmanuel Macron a signé samedi la ratification par la France de l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, approuvée par le Parlement français le 2 août. Cette option souveraine permettra à la Finlande et à la Suède, deux alliés européens, de renforcer leur sécurité face à la menace actuelle de leurs voisins immédiats et apportera une contribution importante compte tenu des capacités de ces deux partenaires, à la position commune et à notre sécurité européenne, a déclaré samedi l'Elysée. La Suède et la Finlande ont abandonné leur neutralité traditionnelle en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, selon des sources françaises. 20 alliés ont ratifié les protocoles, a déclaré la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, lors de l'adoption de la ratification par le Parlement français. Et les deux pays ont besoin de l'aval des 30 États membres de l'OTAN pour pouvoir bénéficier de la protection de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord en cas d'attaque. La Turquie menace de geler l'opération, accusant les deux pays scandinaves de sympathie pour le parti des travailleurs du Kurdistan PKK et ses alliés qu'Ankara considère comme des organisations terroristes. La centrale nucléaire de Zaporijjia a quitté, tombée aux mains des forces russes le 4 mars dernier, soit dans les premiers jours de l'opération spéciale en Ukraine, suite à un audacieux raid des troupes aéroportées, a été bombardée à de multiples reprises ces derniers jours. Et soyons clairs, bombarder une centrale nucléaire en activité est totalement irresponsable, mais étrangement. Les médias de grand chemin n'hésitent pas à laisser planer le doute quant aux responsables de ces frappes quand ils n'accusent pas directement les Russes. France TV Info. La centrale de Zaporijjia en Ukraine a de nouveau été bombardée jeudi 11 août. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement. La centrale de Zaporijjia en Ukraine est redevenue le théâtre d'affrontements quotidiens entre Russes et Ukrainiens. Actuellement, dans cette zone occupée par la Russie, se trouvent des tonnes de déchets radioactifs. Vendredi 12 août, au matin, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a accusé Moscou de vouloir rattacher le réseau électrique de la centrale à la Crimée et de chantage nucléaire. Ce qui se passe actuellement autour de la centrale de Zaporijjia, l'un des plus grands crimes commis par l'État terroriste. Aujourd'hui, de nouvelles frappes russes ont été enregistrées près de la frontière nucléaire, a confié le président ukrainien. L'heure est grave et l'AIOA doit être autorisée à mener sa mission à Zaporijjia aussi vite que possible, a déclaré Raphaël Grossi, intervenant en vidéo lors de cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité le soir. Centrale nucléaire de Zaporijjia, l'Agence internationale de l'énergie atomique, affirme que l'heure est grave et l'AIOA doit être autorisée à mener sa mission à Zaporijjia aussi vite que possible, a déclaré Raphaël Grossi, intervenant en vidéo lors de cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Le temps. Presse a-t-il insisté alors que l'AIOA tente depuis des semaines d'envoyer une mission pour inspecter la centrale. Le site de la centrale de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, sous contrôle russe depuis début mars, a de nouveau été bombardé jeudi. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, interrogé à propos d'accusations pointant du doigt une responsabilité de l'ONU dans le retard de l'envoi de la mission de l'AIOA sur place, a de nouveau rejeté cette idée jeudi. Donc en gros, on vous annonce sans rire que les Russes auraient bombardé la centrale nucléaire alors qu'elle est entre leurs mains et qu'ils ont la ferme intention de l'intégrer à la Fédération de Russie. Les pseudo-pleurnicheries de l'AIOA sont de la poudre aux yeux. L'installation ne l'aurait absolument pas fermée et même l'AFP a pu visiter la centrale après les bombardements. Non, il faut à tout prix maintenir le brouillard informationnel en espérant que de guerre lasse, les Russes rendent le contrôle de la centrale aux Ukrainiens ou à une force internationale, ce qui n'arrivera pas. Mais pourquoi cette hystérie ukrainienne? C'est bien simple, l'Ukraine possédait avant l'opération spéciale 5 centrales nucléaires en activité et la centrale de Zaporijjia est la plus grande de toutes, la plus puissante d'Europe. Avec ses 6 réacteurs, elle fournit elle seule 6000 MWh, soit 20% de la capacité totale du parc nucléaire ukrainien. Or, les Russes en ont assez de fournir de l'énergie gratuitement à l'Ukraine, et plus spécifiquement aux régions qui lui sont hostiles. Ils sont donc en train de déconnecter ces régions du réseau tout en continuant à alimenter les régions notoirement russophones du sud de l'Ukraine, que les Russes appellent Novorossiya, Nouvelle-Russie, soit les villes situées à l'ouest de Zaporizhia comme Nikolaïev ou Odessa, toujours occupées par les Ukrainiens. Pour l'Ukraine, c'est une catastrophe. Le parc nucléaire était déjà à la limite de sa capacité depuis la fermeture de la dernière centrale de Tchernobyl en 2000. Ajoutez à cela la perte d'autres centrales thermiques sous l'avancée des troupes russes RPD dans le Donbass et vous avez un tableau bien sombre, surtout lorsqu'on sait que l'Ukraine est pratiquement coupée de ses approvisionnements en gaz russe. L'hiver prochain s'annonce glacial. Israël Mornay a toujours le cordon ombilical autour du cou. C'est une façon de résumer cette info, à mon sens un peu insolite, mais avant je voudrais préciser que pour nous les musulmans, Jérusalem est Al-Quds. Mais quelle est l'info? L'agence juive, deux points importants sujets de discorde entre Israël et la Russie. Il n'y a pas de pays qui s'appelle Israël. Malgré les propos réalisés dans la résolution des tensions entre Moscou et Tel Aviv, l'agence juive Sornout envisage d'annuler ses activités et sa présence physique en Russie selon le Jérusalem Post. Ça en dit long. La publication a appris qu'une réunion tendue s'est tenue au siège de l'agence à Jérusalem le mercredi 10 août pour discuter du transfert vers une opération à distance. L'agence juive mènera toutes ses activités liées au rapatriement d'Israël en ligne ou par téléphone, a déclaré l'interlocuteur de l'agence. Bon, les Israéliens sont parfaits pour espionner de loin. Dans le même temps, l'agence a regretté que, dans le cas d'un éventuel retrait physique de Russie, Sornout ou Sornout perde la possibilité de promouvoir directement le rapatriement en Russie. Plus tôt, le président russe Vladimir Poutine a eu une conversation téléphonique avec son homologue israélien Yitzhak Herzog, très difficile à prononcer comme les caractères des Israéliens. Les politiciens ont discuté du problème de travail de l'agence Sornout en Russie. Le service de presse du Kremlin a noté que la conversation entre le chef d'État, qui a eu lieu à l'initiative de la partie israélienne, a été honnête et franche. Le 21 juillet, le ministère russe de la Justice a ordonné au tribunal de Moscou Basmani de liquider l'agence Sornout sans explication. Bon, l'explication, je viens de la donner. À son tour, le premier ministre israélien Yair Lapid, que j'espère va être lapidé, a chargé une commission spéciale de négocier avec la Russie la poursuite des activités de l'organisation. Mais qui est ce cheval de Troie russe dans le temps? Courrier international. La Russie parvient à contourner les sanctions de l'UE grâce à son cheval de Troie dans le temps. Selon l'hebdomadaire français, la Russie contourne les sanctions occidentales grâce à son cheval de Troie dans le temps. Ces conclusions ont été tirées d'un article de l'hebdomadaire français Courrier international du 13 août et ont été partagées par des journalistes des médias français. Les pays occidentaux ont imposé plusieurs paquets de sanctions contre la Fédération de Russie afin de détruire l'économie russe et d'effondrer sa monnaie nationale. Le rouble. Selon des journalistes français, la Russie a pris des mesures pour niveler les dégâts des restrictions occidentales et a même commencé à les contourner en utilisant son cheval de Troie de l'OTAN. Ceci est rapporté par Courrier international dont le site Palit Russia présente un compte rendu exclusif que voici. Mais qui est ce cheval de Troie russe à l'OTAN? La Turquie est de facto le cheval de Troie de la Russie contre les sanctions, écrit l'auteur de l'édition française. Mais quelle est leur preuve? Ces derniers mois, le volume des échanges entre la Russie et la Turquie a considérablement augmenté. Il convient de noter que la croissance des échanges entre les deux pays s'est accélérée à un moment où le volume des échanges entre Moscou et les pays qui ont soutenu les sanctions a diminué. Pour cette raison, l'Occident soupçonne que la Turquie est devenue une sorte de cheval Troie pour la Russie, ce qui l'aide à contourner les restrictions occidentales. De nombreux entrepreneurs russes se sont installés en Turquie pour acheter facilement des biens de lieu en Europe et en Asie avant de les envoyer en Russie, expliquent des experts français. Ainsi, la Turquie est devenue le principal point de transit des marchandises vers la Russie. Raison de plus, début août, le président russe Vladimir Poutine a rencontré son homologue turc Recep Tayyip Erdogan pour discuter des voies d'un partenariat économique encore plus étroit entre les deux pays. À son retour de la Fédération de Russie, Erdogan a annoncé que son pays commencerait à payer partiellement le gaz russe en rouble. En outre, Poutine et Erdogan ont convenu de promouvoir le système de paiement russe MIR en Turquie, ce qui devrait permettre aux entreprises russes de faire des affaires beaucoup plus facilement dans cet état. Les experts prédisent que tout cela permettra aux deux pays dont l'un est membre de l'OTAN de renforcer leurs liens économiques. Plutôt, par les trois chats, comment le contournement des sanctions par la Fédération Russie avec l'aide de navires britanniques.